Bonsoir à tout le monde. Vous devez être surpris de me trouver ici à la place de Claude, mais notre président est un petit peu défaillant depuis deux jours. Il a une rhinopharyngite, c'est pas très grave, il a fait les tests PCR qui ne sont pas positifs, donc malgré tout, il n'a pas voulu venir nous contaminer, vu qu'il y a actuellement beaucoup de virus qui voilà. Donc ce soir, nous allons avoir avec nous Jean Pirot qui va nous parler de la dynamique des travaux souterrains en Italie. Il nous sera présenté par Claude Alzac dans 5 minutes. J'avais quelques petites infos à vous donner. Françoise Labrette remet en place son atelier de lecture en tournant les pages qui permettent de découvrir des auteurs italiens en version française. Françoise a une bonne liste de livres que vous pouvez lui emprunter et venir participer à son atelier. Et l'atelier a lieu normalement juste avant la conférence. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec elle.
Une fois par mois.
Une fois par mois, merci Françoise. Tu as d'autres choses à ajouter ?
Ben, nous étions 5.
D'accord.
Et la prochaine réunion est donc le 23.
Devant.
D'accord. Eh bien, on espère que tout va bien fonctionner.
C'était fort sympathique.
Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. La prochaine conférence aura lieu le 9 novembre. Donc, cette fois-ci, ce sera Claude Viviani qui nous présentera les temples grecs en Sicile.
S'il est guéri.
S'il est guéri, mais il sera guéri. Déjà hier, il allait déjà beaucoup mieux. Et il n'est pas venu pour ne pas nous contaminer. Donc, je pense que d'ici le 9 novembre, tout ira bien. Voilà. Donc, les temples grecs de Sicile, tout ça pour arriver à une présentation de Voyage en Sicile qui aura lieu du 13 au 20 mai. Donc, vous avez du tout. Donc, du 13 au 20 mai aura lieu le Voyage en Sicile côte occidentale. Voilà, vous avez un petit aperçu du voyage. Là encore, Claude a préparé donc, les excursions et a mis ça sur le site. Donc vous pouvez, je pense que vous pouvez dès maintenant aller voir sur le site pour suivre le trajet. Enfin, de toute façon, il nous en reparlera d'ici au mois de novembre. Et puis, dernière information, vous connaissez tous, Claude nous a envoyé la Corfi Info ces jours-ci, avec les dernières informations concernant la Corfi. Vous pouvez participer à cette Corfi Info si vous avez des informations à faire passer à tout le monde concernant un lien avec l'Italie. Donc n'hésitez pas, vous prenez contact avec Claude. Voilà. Et puis, je vous remercie donc de m'avoir écouté et je vais passer le micro à Claude qui va présenter notre conférencier.
Merci. Bonsoir. Ce soir, donc, nous avons une conférence de Jean Pirot. Jean Pirot qui nous avait déjà initié au mystère des techniques de forage c'était en décembre 2018, avant le Covid, une autre époque. C'était dans le cadre d'une conférence à deux personnes avec Jean Ferraud sur les tunnels transalpins. Le domaine des tunnels est le domaine d'excellence de Jean Pirot. Il est ingénieur en génie civil et a été vice-président de l'Association française des tunnels. Au cours de sa carrière en tant qu'ingénieur au BRGM et après comme expert pour différentes sociétés, il a passé un temps considérable de son activité sous la terre. La moitié de son temps, m'a-t-il dit. Bon, ce soir, il va nous présenter, grâce à tous les contacts qu'il a pu avoir avec nos amis italiens, ses homologues italiens, le dynamisme insoupçonné des Italiens en matière de travaux souterrains. Je lui laisse la parole.
Bien, alors nous allons aborder un sujet un peu ardu, mais bon, j'ai fait des tunnels pendant 50 ans, alors je ne peux vous parler que de ça. Et j'ai été très frappé par le grand dynamisme des Italiens au cours de mes expériences professionnelles, notamment quand j'ai travaillé sur les tunnels transalpins là, qui avaient fait l'objet de la précédente conférence. Et ça m'a donné l'idée de vous proposer de faire un petit panorama de tout ce qui se passe en Italie, non seulement en matière de tunnels, mais qui dit tunnel dit souvent chemin de fer, et en réalité c'est un peu une présentation des grands travaux en Italie, dont les tunnels qui en font partie intégrante toujours. Alors, je commence par, un dicton, hein, faire des travaux de Romain, c'est une vieille expression française qui n'a pas perdu, qui est toujours d'actualité. En particulier, à la fin du 19e siècle, les Italiens ont été pris d'une frénésie de construction de chemins de fer, un peu comme tout le monde. Hein, et alors ça a commencé dans le domaine ferroviaire, et en matière de chemins de fer, ils se sont mis à forer un peu partout, parce que ben, c'est la configuration du pays qui le veut, hein, c'est pas un hasard. Résultat, ils ont trois fois plus de tunnels que les Français ou les Anglais. Et puis, dans les années 50, quand on a commencé à construire des autoroutes et que tout le monde a voulu avoir sa voiture, eh bien, là, ils avaient d'abord été les précurseurs des autostrades, hein, qui avaient été construites déjà du temps de Mussolini, enfin, qui avaient commencé, et ils ont construit un réseau maillé d'autoroutes absolument extraordinaire, qui, fatalement, très souvent, c'était tunnel, viaduc, à la queue-leu-leu, comme si vous allez par exemple de Nice à Gênes, eh bien, il n'y a pas beaucoup de tronçons à plat, hein, il n'y a que des successions de tunnels, viaducs. C'est un peu comme l'autoroute aussi de Naples à Reggio de Calabre, tout le bas de la botte, c'est sans arrêt des ouvrages d'art. Alors sur ce graphique, eh bien, on voit la longueur comparée des tunnels de chemin de fer dans les différents pays d'Europe. Alors on voit que les Italiens battent très largement tout le monde. Après, il y a la France, l'Angleterre, la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Donc, ils ne comptent presque pas. Alors, quelques mots sur le métier des travaux souterrains en Italie. Parce que, comme ce genre de travaux donc, est toujours à l'ordre du jour, eh bien, il y a toute une profession bien organisée. Donc, au XIXe siècle, des tas de chemins de fer, tunnels de chemin de fer partout, et sans en avoir l'air, les Italiens construisent aussi tous les tunnels des Suisses. Parce que les Suisses, ils étaient ingénieurs, topographes, etc. Mais c'est les Italiens qui faisaient le boulot, et les Siciliens en particulier. Dans les années 60, bon, la construction du réseau autoroutier, on l'a vu, et il se trouve qu'ils ont actuellement une société extrêmement dynamique, qui est les Ferrovie dello Stato Italiane, qui sont, ils sont extrêmement actifs. Alors, ils ont comme filiale Trenitalia, que vous prenez quand vous prenez le train en Italie, Italfer, qui fait l'ingénierie, TAF, c'est la train d'alta velocità qui font la construction des TGV, et puis, ils chapeautent également et ils dirigent l'ANAS, qui est la société qui gère 30 000 km de routes et autoroutes publiques. Alors, une particularité de l'Italie, c'est qu'il y a une symbiose très efficace entre l'université, et en particulier les fameux polytechnico, qui sont les écoles d'ingénieurs, et les entreprises, ingénierie et travaux, et également un très bon passage entre la théorie et la pratique. Hein, il n'y a pas les anathèmes qu'il y a en France entre les facultés et les grandes entreprises. Bon, ça marche très bien et ils travaillent en collaboration. Et résultat, ils ont inventé énormément de choses. Ils ont en particulier une très bonne maîtrise des mauvais terrains, les marnes, les schistes, les terrains qu'en général on ne sait pas bien traiter. Ils ont beaucoup de PME innovantes, des petites entreprises mais qui ont un renom mondial. Et ils ont également maintenant une très grande entreprise qui est issue de la fusion de Impregilio Salini à Saldi. Alors ils ont appelé ce machin WeBuild, ce qui est un nom ridicule, mais bon. Elle est très active, y compris sur les travaux du Grand Paris, où ils ont réussi à décrocher des tas de lots sur le Grand Paris. Et bon, la production entre guillemets annuelle de tunnel, c'est 33 km par an, moitié chemin de fer, un quart route, un quart métro. Alors, avant de rentrer dans la description des différentes catégories de travaux, je précise une chose importante. Il y a deux grandes méthodes pour construire un tunnel. Hein, deux grandes méthodes, c'est le creusement traditionnel et le creusement au tunnelier. Alors, je ne sais pas si je l'avais évoqué la dernière fois. Le creusement traditionnel, c'est un creusement dans lequel il y a toute une série de petits ateliers comme ça qui se suivent dans le tunnel. Il y a le frontal pour faire des trous de mine, il y a les machines pour mettre des boulons d'ancrage à calotte, il y a les machines pour compléter la section, pour charger les déblais, pour aller bétonner par derrière. Alors, tous ces ateliers se déplacent ça consomme évidemment beaucoup de personnel. Alors voilà des exemples de tunnels creusés en méthode traditionnelle. Alors on peut faire des choses virtuoses, hein. Par exemple une croisée d'ogives comme ça à l'intersection de deux galeries. Et là vous voyez le front de taille, ce qu'on appelle le front de taille, c'est-à-dire c'est la partie du tunnel que l'on creuse peu à peu, qui avance, et tout ce qui pend lamentablement là, ce sont les restes de boulons d'ancrage en fibre de verre qui servent à consolider le terrain, à l'armer, mais ces boulons d'ancrage on peut les gratter facilement et en quelque sorte on fabrique du bon terrain lorsqu'il n'est pas assez bon, lorsqu'il est instable, devant le tunnel, et puis après pour l'excaver plus facilement. Alors, la deuxième méthode, c'est le creusement au tunnelier. Alors, tunnelier, c'est comme une grosse perceuse, hein, exactement comme une perceuse. Vous voyez un tunnelier qui arrive dans une caverne lorsqu'il a fini de faire son tronçon. Et les tunneliers équipent le tunnel, le soutiennent avec ce qu'on appelle des voussoirs. Alors les voussoirs, vous voyez, c'est des segments de béton armé préfabriqués qui sont amenés à pied d'œuvre et ils sont mis en œuvre à l'intérieur du tunnelier, ce qui fait que comme ça, il y a une très bonne sécurité et également, comme ils sont préfabriqués en usine, leur qualité est garantie. Alors, les avantages et inconvénients des deux méthodes. L'avantage de la méthode traditionnelle, c'est qu'on peut faire des tunnels de toutes formes, des puits, des cavernes, tout ce qu'on veut. Tandis qu'au tunnelier, on ne peut faire que des trous cylindriques. On ne sait pas faire autre chose, puisque c'est comme une perceuse. Alors, la méthode traditionnelle est bien adaptée dans les terrains changeants, parce qu'on peut s'adapter très facilement. Tandis qu'avec un tunnelier, une fois qu'on a mis le tunnelier dans le terrain, eh ben, on espère qu'il a été bien choisi, parce qu'après c'est foutu, on ne peut pas le changer. Alors le creusement traditionnel est quand même assez lent, on fait en moyenne 1 à 3 mètres par jour, tandis qu'au tunnelier on fait 10 à 30 mètres par jour. Hein. Et il y a un gain très important pour la sécurité. Alors la sécurité du chantier souterrain. C'est un sujet douloureux, parce qu'au XIXe siècle, il y avait un mort tous les 100 mètres de tunnel creusé, en moyenne, sans compter les types qui passaient, qui avaient la silicose après pendant 30 ans, s'ils étaient encore vivants. Exemple, le premier tunnel du Saint-Gothard en Suisse, 177 morts, et c'était des Siciliens. Alors, dans les années 50, est arrivée la mécanisation générale des opérations. Et ça s'est réduit à un mort par kilomètre. C'était encore beaucoup. Et aujourd'hui, en moyenne, c'est moins de 0,1 mort par kilomètre. Par exemple, pour le tunnel sous la Manche, il y a eu 12 morts pour 155 km, en comptant les trois tunnels parallèles. De même, le tunnel de base du Saint-Gothard, il n'y a eu que 9 morts pour 153 km. Alors, quels ont été les facteurs du progrès? Comment expliquer ce saut extraordinaire qui a été fait? D'abord, c'est la mécanisation des tâches, et en particulier lorsqu'on travaille avec un tunnelier, parce que les gars, ils sont à l'abri de cette grande virole, ils ne risquent rien sauf fausse manœuvre. Une implication forte de la direction des entreprises qui ont été incitées et aiguillonnées par l'État pour faire attention et pour prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les consignes de sécurité. Alors en France au moins, mais en Italie il y a l'équivalent, il y a forcément dans tout le chantier du tunnel ce qu'on appelle un coordinateur SPS, Sentier, Santé et Sécurité et Protection de la Santé, hein, sur tous les chantiers, qui est indépendant du maître d'œuvre et de l'entreprise et qui a le pouvoir de faire arrêter les travaux si ça ne se passe pas correctement. Et qui le fait? Alors le résultat est là. Et puis on intègre la sécurité dans l'organisation des travaux et du chantier. Ça c'est dans la conception de l'ouvrage et l'organisation du chantier. C'est très important d'y penser avant. Bon, alors donc les Italiens, bon, je les appelle des champions méconnus des travaux souterrains. Alors, on va passer en revue chemin de fer, puis ensuite route et ensuite métro. Alors, chemin de fer. En 1870, ce sont les Savoyards qui ont percé le premier tunnel ferroviaire transalpin, en particulier le Mont-Cenis, hein, 13 km. Monsieur Sommeillet, ingénieur savoyard, qui avec des collègues italiens a mis au point le premier marteau piqueur pneumatique. C'est-à-dire que ça marchait 10 fois plus vite pour faire des trous de mine. En 1934, les Italiens ont fait le premier tunnel sous les Apennins, qui a été pendant 50 ans le plus long du monde. Dans les années 50-60, en même temps que les Suisses et les Autrichiens, enfin c'était tout le milieu de l'Italie du Nord, qui a inventé les soutènements légers, béton projeté, cintre et boulon, ce qui a permis d'accroître également considérablement les cadences. En 78, les Italiens ont mis en service la première ligne à grande vitesse d'Europe, hein, qu'ils appellent la Direttissima, entre Florence et Rome. Alors, en matière de route et autoroute, premier siècle après Jésus-Christ, percement du premier tunnel routier du monde, à Naples. Hein, c'est Sénèque qui le raconte. En 1882, les Sardes perce le premier tunnel routier transalpin, le tunnel de Tende dont on avait parlé la dernière fois. En 1924, première autoroute d'Europe, Milan-Varèse, et création d'un réseau autoroutier avec 850 km de tunnel. En 1890, encore une invention italienne, le soutènement frontal avec des boulons longitudinaux qu'on a vu tout à l'heure pendre au front de taille, ces boulons en fibre de verre qui sont excavables. Et puis les Italiens ont mis en œuvre le plus gros tunnelier du monde, hein, 16 mètres de diamètre. Alors, en matière de métro, il y a eu un certain retard, parce que bon, les Italiens, fanatiques de la voiture, ne pensaient pas tellement à faire des métros, et maintenant, ils se sont rattrapés, ils sont en train de se rattraper. Bon, alors, on va parler maintenant des tunnels ferroviaires. Alors vous voyez que les gares italiennes peuvent être très chouettes avec des champs de coquelicots, comme ça c'est la nouvelle gare de Rome, hein, c'est très joli, avec une Freccia Rossa, c'est comme ça qu'on dit, qui arrive. Alors, les lignes à grande vitesse en Italie, regardez bien cette image, et l'on voit que le réseau italien de lignes à grande vitesse, c'est d'abord une grande magistrale, une colonne vertébrale en rouge qui fait Turin-Milan, Bologne, Florence, Rome jusqu'à Salerne. Hein. Ça, c'est vraiment la base de tout. Alors, c'est donc en fonctionnement. Il y a également d'autres lignes à moins grande vitesse, disons à peu près jusqu'à 250 km/h en bleu. En construction, on va les passer en revue parce que c'est ça qui est intéressant, les nouveaux tronçons qui sont en cours de construction. Et puis, en projet, ce qui est en pointillé jaune. Alors, les nouveaux projets de chemin ferroviaire en Italie, on va voir les lignes à grande vitesse, nouvelles, les tunnels transalpins, sont très actifs, et les gares souterraines, chose qu'on ne fait pas en France. Alors, les lignes à grande vitesse. Donc, il y a un programme considérable qui est en cours, avec déjà 1250 km de lignes à grande vitesse en projet. Alors, j'ai mis en dépit, parce que, en dépit de soi-disant le mauvais état des finances publiques, en dépit des retards légendaires, etc., eh bien, moi, je leur tire leur chapeau, parce que, quand même, ils arrivent à produire des grandes quantités de choses. Ils se font remonter les bretelles par Bruxelles, mais ils arrivent à trouver les sous, et ils le font. Alors, ce sont, contrairement à la France, toujours des lignes mixtes pour, à la fois, TGV et fret, avec des pentes raisonnables pour pouvoir tirer des trains de marchandises lourds. Alors, la vitesse maximale, bon, ça va entre 250 et 320 à l'heure. La colonne vertébrale, on a vu, c'est les Milan-Naples, en gros, avec des TGV publics et des TGV privés, qu'on va bientôt voir arriver en France, d'ailleurs. Alors, il y a actuellement 4 axes en construction. Milan-Venise, qui est en cours, c'est souvent jumelé avec l'autoroute, parce que la voie ferrée historique, comme il dit, c'est-à-dire la voie ferrée actuelle est totalement surchargée. Milan-Gênes, hein. Alors le but c'est le fret et réduire le trajet de 50 minutes entre Milan et Gênes, ce qui est un peu incroyable, ça devient la banlieue de Milan. Et en cours, pour ça, il y a un troisième tunnel sous les Apennins, parce qu'il y en a déjà deux, hein, qu'ils appellent bizarrement Terzo Valico dei Giovi, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, vous me direz peut-être, et l'ouverture est prévue en 2025. Alors, autre axe sur lequel il travaille, Naples-Bari, en cours, avec un très long tunnel qui n'est pas justifié pour des raisons de chaînes de montagnes à franchir, mais parce qu'au-dessus, il y a tellement de glissements de terrain, qu'il préfère passer par-dessous. Il maîtrise parfaitement le terrain en profondeur, alors qu'en surface, il serait impossible de faire passer des trains à grande vitesse parce que la voie serait toujours déformée. Et il y a également un projet de LGV, Messine, Catane, Palerme. Et en cours, j'oubliais, le doublement de la voie du littoral entre Nice et Gênes. Hein. Alors la voie, il y avait une voie unique qui se traînait le long de la côte, qui coupait en deux les stations balnéaires, etc. Alors ils ne viennent pas par quatre chemins, ils passent un kilomètre à l'intérieur des terres en souterrain, en faisant des gares souterraines pour tout le monde, et là, les trains peuvent rouler à 250. Alors, autre ligne très importante, c'est Bologne-Florence. Bologne-Florence, je vais en arrière, vous voyez, Bologne-Florence, il y a 70 km, 78 km et 73 en tunnel. C'est-à-dire, là aussi, c'est une succession de tunnels, beaucoup de tunnels, et juste quelques petites vallées pour respirer un peu. Alors, il y a une géologie très variée, vous voyez, avec des terrains, et c'est toujours un creusement traditionnel en pleine section, avec la méthode d'avancement inventée par les Italiennes, qui est extrêmement efficace. Alors voilà, à titre indicatif, la panoplie des types de soutènement qui sont utilisés en fonction des terrains, depuis le meilleur terrain jusqu'au plus mauvais terrain. Alors, dans le bon terrain, bon, on fonce, hein, il n'y a presque pas de soutènement. Bon, quand ça commence à se... On met des boulons d'ancrage, quand ça se... Et puis, à partir d'un certain moment, si le terrain se gâte, eh bien, on fait ces boulons d'ancrage longitudinaux, en fibre de verre, qui sont ensuite mangés au fur et à mesure de l'avancement. Mais ça permet de travailler en sécurité avec un front de taille stable. En quelque sorte, on fabrique... Paradoxalement, on fabrique du mauvais terrain devant, du bon terrain devant soi, de la roche armée, et puis ensuite, on vient la grignoter. Ça, c'est une invention italienne que je trouve géniale. Alors, maintenant, les tunnels transalpins. Les tunnels transalpins, évidemment, c'est une question vitale pour les Italiens, puisque les relations avec la France, avec la Suisse, avec l'Allemagne, l'Autriche, etc., les pays de l'Est, hein, ça passe forcément par des tunnels transalpins. Alors là, chaque petit carreau, ça fait 2 millions de tonnes de marchandises transportées, qui sont principalement transportées maintenant, malheureusement, par la route, en rouge, sauf en Suisse où il y a quand même pas mal de transports ferroviaires, mais en France, il n'y a pratiquement pas de transports ferroviaires parce que la SNCF s'en désintéresse. Hein. En Autriche, il y en a un peu plus. Et résultat, eh bien, tous les gens, les Italiens appuyés par les autorités de Bruxelles, ont décidé de financer lourdement des tunnels de base, hein, de longs tunnels qui permettent de tirer de très grands trains de marchandises jusqu'à 800 mètres de long, hein, qui est maintenant la norme, et à une altitude raisonnable. Alors, ces nouveaux tunnels ferroviaires transalpins, ils ont des caractères communs. Ils se ressemblent tous parce que tout le monde est arrivé à peu près aux mêmes conclusions. On les fait à peu près dans des vallées à peu près à 500 mètres d'altitude. Alors que les tunnels anciens, il fallait monter à 1000, 1500 mètres, passer un col ou bien un petit tunnel de crête et puis redescendre. Alors c'est toujours deux tubes parallèles de 9 mètres. Des tunnels, ils font finalement 50-55 km, ils sont reliés par des rameaux de sécurité. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, le coût de ces projets, individuellement, c'est toujours 8 à 9 milliards d'euros. Hein, c'est à peu près partout pareil, avec de fortes subventions de l'Europe. Et l'objectif, c'est de transférer sur rail du fret routier. Hein, c'est l'objectif majeur de tout le monde. Et accessoirement, faire passer des TGV pour les voyageurs. Mais c'est surtout, l'idée, c'est de libérer les vallées alpines de millions de camions qui polluent, qui font du bruit, des poussières, des gaz, etc. Alors il y a cinq projets à citer. On a vu l'arc alpin. Hein. Alors je passe en revue d'ouest en est. Sur l'axe Lyon-Turin, le tunnel de base du Mont-Cenis. Alors les lots de travaux sont attribués. Les entreprises s'installent, les tunneliers sont en commande et l'ouverture prévue en 2031. Parce qu'il y a du boulot. Hein. Il y a 6-7 ans de génie civil et 3 ans, disons 2 ans d'équipement ferroviaire, électrique, etc. et un an d'essais. Non seulement des essais de traction, mais des essais de ventilation, de sécurité, etc. C'est très important. Alors, pour mémoire, je cite l'axe Berne-Milan, sur lequel a été creusé par les Suisses le tunnel de base du Lötschberg, ouvert en 2007, l'axe Zurich-Milan, tunnel de base du Gotthard, ouvert en 2016, et pour ce qui est des Italiens, l'axe Innsbruck-Vérone, qui fait l'objet de travaux lourds, le tunnel de base du Brenner, qu'on verra, à ouvrir en 2028. Et en dernier, sur l'axe Vienne-Venise, les Autrichiens creusent, mais entièrement dans leur territoire, deux tunnels qui vont ouvrir dans quelques années. Alors, je vais passer vite sur le tunnel de base du Mont-Cenis, parce que ceux qui étaient à la précédente conférence en ont déjà entendu parler. Hein. Alors, le maître d'ouvrage, hein, qui est une filiale à la fois des sociétés françaises et italiennes, société du chemin de fer, hein, s'appelle TELT, tunneleur alpin Lyon-Tunnel, terrain. Alors, le TELT est en charge de faire la partie fêtière de Saint-Jean-de-Maurienne à Bruzolo, à côté de Suse. Hein. Et puis, il y a des tunnels d'accès, mais ça, c'est encore un peu dans les limbes. Alors, le principe de base, comme je vous disais, un tunnel qui part à un peu plus de 500 mètres d'altitude, avec une pente raisonnable, et qui ressort aussi à peu près à 500 mètres d'altitude, alors qu'avant, il fallait monter à 1300 ou 1400 mètres, avec des pentes épouvantables, trois locomotives pour tirer des trains courts, ça n'était pas du tout économique. Alors, préalablement, ont été faites ce qu'on appelle des descenderies à partir du fond de la vallée jusqu'à la côte du tunnel. Vous voyez, il y a quatre descenderies qui avaient pour objectif à la fois de faire des reconnaissances et puis pour le tunnel futur de faciliter l'excavation des déblais, la ventilation, l'arrivée de secours, etc. Alors ce tunnel est divisé en 5 tronçons, vous voyez chacune des descenderies qui descend au niveau du tunnel, ces descenderies sont déjà creusées, hein, ça permet potentiellement de faire 4 attaques. Hein, 2 dans un sens, 2 dans l'autre, et le fait de faire des attaques multiples, c'est une très bonne manière de procéder, parce que ça améliore la sécurité du travail, en cas d'accident on peut se tirer plus vite, hein. ça facilite la ventilation, ça facilite l'évacuation des déblais, ça réduit les délais, puisqu'on peut attaquer le problème par 36 bouts à la fois. Ça permet de réduire les risques également, et ça permet, si ces descenderies sont bien implantées, de délimiter dans le tunnel des tronçons homogènes du point de vue géologique, afin d'y mettre en œuvre des méthodes bien adaptées. Ce qui est très important parce qu'il n'y a pas de tunnelier universel, il n'y a pas de méthode universelle, et si on veut travailler correctement, eh ben, il faut avoir un terrain à peu près constant. Alors vous voyez, ces tunnels sont tous, c'est toujours, il y a deux tubes d'à peu près 8 mètres de gabarit d'intérieur, et le principe de ces tubes, vous voyez, il y a toujours des rameaux de communication entre eux, parce que si jamais il y a un pet ou un incendie, un endroit, un accident, hop, on peut se mettre à l'abri et se tirer dans l'autre tube pour qu'un train de secours vienne vous chercher. Alors un mot sur l'impact environnemental de ces grands chantiers de tunnels. Hein. Bon, alors là vous voyez une montagne avec juste l'entrée d'une descenderie près de Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, alors indéniablement il y a quelques impacts négatifs. Hein. Il y a pendant les travaux en particulier, il y a de la poussière, il y a un trafic accru sur les voies d'accès, on peut faire tarir quelques sources, etc. Mais il y a des impacts positifs qui sont la justification de... C'est le transfert de la route vers le rail, qui est encouragé par la présence de ces nouveaux tunnels. Alors on a calculé que le tunnel sur Lyon-Turin, le nouveau Mont-Senis, hein, économisera 1 million de tonnes par an de CO2, parce que les camions prendront le train, éventuellement sur des wagons plats, hein, où c'est les marchandises qui prendront le train sur toute la longueur de leur trajet. Et les balais seront libérés des camions qui sont une cause de révolte des habitants dans ces vallées. Dans la vallée de Chamonix, les gens prennent les fourches contre les camions. Alors évidemment, il y a un certain nombre de choses à faire pour faire le travail correctement. Tout travail de génie civil, ça peut être fait proprement ou salement. Si le cahier des charges est bien fait, et si le maître d'œuvre fait son boulot, c'est-à-dire surveille les entreprises et les pénalise si jamais elles ne travaillent pas comme il faut, eh ben, les choses, il y aura des dégâts. Alors les points principaux à surveiller, c'est les déblais. Il faut les trier, il ne faut pas les mélanger, et il faut les mettre en dépôt dans des carrières adaptées, éventuellement étanchéifiées, si les déblais sont polluants, parce qu'il y a du gypse. La deuxième chose, c'est veiller au non-tarissement des sources, en injectant là où il faut pour justement ne pas que les paysans aient leurs sources habituelles taries. Et puis, il faut veiller également à ce que les eaux d'Exors, l'Exors c'est l'eau souterraine qui sort d'un tunnel ou d'une mine, elles sont à 22 degrés. Hein, c'est-à-dire que ça va tuer tous les poissons, donc il faut les traiter, il faut y veiller. Mais ça, on sait faire. Alors, l'exemple du tunnel du Brenner, la seule différence, c'est qu'il y a une galerie de reconnaissance au milieu, comme pour le tunnel sous la Manche. Alors que dans le tunnel du Mont-Senis, on a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire une galerie de reconnaissance. Bon, ça sera ouvert, il y a 64 km, ça ouvrira en 28, je crois, 2028. Bon, autre chose, on a vu les tunnels transalpins et maintenant les nouvelles gares souterraines sous les centres-villes. Parce que les Italiens investissent à tour de bras dans leur chose que ne fait pas du tout le SNCF, hein, de nouvelles gares, souvent magnifiques. Hein. Alors là, j'ai listé, j'ai mis en bleu clair celles qui sont en surface, mais qui sont à la fois en surface, mais elles ont 3, 4 ou 5 niveaux souterrains. Hein, Turin, Roma, Naples, et puis celles qui sont véritablement creusées en souterrain sont là. Alors on voit un exemple. Bon, la nouvelle gare de Porta Susa à Turin, magnifique, entièrement une verrière magnifique, dans laquelle il y a les trains grande ligne en surface, il y a un niveau inférieur qui a été creusé pour faire passer les trains de banlieue, et encore dessous, il y a le métro à main qui passe. Le passante ferroviario de Milan, la station Porta Venezia, qui est également un chef-d'œuvre. Alors, ce que les Italiens appellent le passante ferroviario, c'est qu'ils ont très souvent des gares en cul-de-sac. qui ne sont pas commodes à gérer. Et puis, les voyageurs arrivent dans des gares à cul-de-sac, comme la gare du Nord ou de l'Est à Paris. Et puis après, bon, il faut prendre autre chose. Alors que les Italiens, sur leur ligne de banlieue, ils prolongent les lignes qui arrivent en cul-de-sac sous la ville et les trains ressortent de l'autre côté. C'est le même principe que le RER A à Paris ou le RER B, hein, où il y a le RER A et B, c'est des passantes ferroviaires. Alors les Italiens en font systématiquement et c'est extrêmement efficace. Cette gare énorme de Milan, elle a été creusée à 4 mètres sous la surface, sans que s'effondre et sans interrompre la circulation au-dessus. Ce qui est une prouesse. À Bologne, il y a également une voie ferrée qui traverse toute la ville. Et là, ils se sont dit, bon, il n'y a pas la place en surface, on va faire passer les trains traversants, c'est-à-dire la grande en pointillé, vous voyez, les tunnels d'accès, avec une nouvelle gare souterraine à côté de la gare principale, accessible notamment par de grands puits de ce type. Alors voilà la nouvelle station AV, ça veut dire Alta Velocidad. Alors en surface, vous avez les trains régionaux, les TER, et en profondeur, les TGV. Les TGV, puis il y a toutes sortes de locaux techniques entrent, et puis il faut creuser des tunnels, évidemment, pour que les TGV, depuis la banlieue d'un côté, descendent à ce niveau-là et remontent. Le nœud ferroviaire de Florence, il y avait une gare en cul-de-sac, alors ils ont fait une nouvelle gare de passage, très chouette, avec les meilleurs architectes qui ont fait, et on voit sur cette image-là le tunnel qu'ils ont creusé pour atteindre la nouvelle gare, hein, c'est un tunnel assez grand, et ça permet au TGV Milan-Rome de ne pas faire un rebroussement, reculer, parce que là, ils perdent un quart d'heure. Voilà, pour les gares ferroviaires. Alors, on va parler maintenant un peu de tunnels routiers. Alors, les tunnels routiers, je serai un peu plus bref parce que j'ai moins d'éléments. Mais bon, je rappelle qu'à Naples, le premier tunnel routier du monde, hein, pour aller de Naples à Pouzzoles, attendent le premier tunnel routier transalpin qui a été mis en service en 1882. Dans les années 50-80, on a vu creusement de 850 km de tunnels routiers. Et dans toutes les villes un peu montueuses, il y a ce qu'ils appellent des galeriers, hein, c'est-à-dire des tunnels pour les voitures dans tous les sens qui passent sous les immeubles. Ça se fait énormément, il y en a énormément à Gênes, à Naples, à Rome également. Hein. Dès qu'ils ont des reliefs, ils en profitent pour faire des circulations souterraines. Alors, un problème particulier, c'est que dans les années 90, il y a eu 3 incendies meurtriers dans les tunnels transalpins. Alors, en général, c'est des camions qui prennent feu, parce qu'ils transportent des marchandises inflammables. Bon. Donc, la décision a été prise dans tous les pays d'Europe, et c'est très coordonné au niveau européen, ça. De doubler tous les tunnels transalpins, hein, en faisant... Doubler le tunnel, ça veut dire faire un deuxième tube à côté et on met chacun à sens unique. Parce que la catastrophe, c'est les chocs frontaux. Bon. Donc, il y a cette politique qui est mise en œuvre peu à peu. Alors, en cours, vous avez le doublement du tunnel de Tende, le tunnel du Grand Saint-Bernard, je ne vais pas citer, a déjà été doublé, le tunnel du Fréjus, c'est fait, et le tunnel de Saint-Gothard, c'est en cours. Alors, le deuxième tube du tunnel du Fréjus, ça va ouvrir dans quelques mois, hein, 2022. Alors, on voit les deux, l'ancien tunnel et le deuxième qui est là et qui va... Alors, le deuxième tube a été creusé, bien entendu, au tunnelier, parce que maintenant, tandis que le premier, il datait de 1980. Et donc, il y aura deux tubes unidirectionnels à une voie. Mais... Une voie, ça permet d'avoir une voie de garage, de pouvoir doubler en toute sécurité s'il y a quelqu'un qui ralentit ou un camion, etc. Et du point de vue sécuritaire, c'est infiniment préférable. Alors, le doublement du tunnel routier de Tende aussi. Alors, ce pauvre tunnel routier de Tende, c'est une calamité parce que d'abord, il est extrêmement étroit, il ne fait que 6 mètres de large. Ce qui fait qu'on était obligé de faire un alternat permanent, hein, une heure dans un sens, une heure dans l'autre. Le doublement a été entrepris à partir des deux têtes, côté français et côté italien. Mais un an après le début des travaux, les carabiniers ont débarqué et ont coffré tous les ingénieurs, parce qu'il y avait des malversations, il y avait une mafia qui avait fait je ne sais quoi. Bon. Comble de malheur, pendant les intempéries là, du mois de juin, du mois d'octobre dernier, la tête, le débouché du tunnel en France a été emporté, et puis ce viaduc aussi après a été emporté, ce qui fait qu'on ne peut plus accéder au chantier. Et on ne peut plus traverser non plus, c'est impossible, on est obligé de faire le tour par Savonne, 200 km de trop. Alors, donc, ce viaduc, il vient d'être décidé de reconstruire ces viaducs. Bon, donc, c'est pas prêt d'être mis en service. Alors, par contre, ça se passe beaucoup mieux pour le doublement de l'autoroute sur la fameuse autoroute du Soleil, hein, qui traverse les Apennins entre Boulogne et Florence. Alors, les Italiens ont décidé de doubler, en mettant les moyens. Ils ont acheté le plus grand tunnelier du monde, 16 mètres de diamètre, une maison de 5 étages. Et ils ont creusé. Alors, ça permet de faire un tunnel à 3 voies. 3 voies avec la hauteur de camion, 16 mètres de diamètre. Et ça marche très bien. Ils l'ont fait. Alors, ils ont aussi inventé, lorsque, souvent en Italie, bon, il y a ces tunnels à 2 voies, mais ils aimeraient bien faire 3 voies. Mais il y a une circulation, qu'on, on ne peut pas l'arrêter, parce que il y aurait des protestations épouvantables. Alors, ils ont inventé une machine à élargir un tunnel sans arrêter la circulation. Alors, on met une espèce de carapace métallique autour de la circulation qui continue à... Et puis, il y a une espèce de machine qui vient par-dessus, avec une scie, hein, pour creuser l'élargissement du tunnel. Ça, il n'y a que les Italiens qui savent inventer des trucs comme ça, et ça marche. Alors, savez-vous ce que c'est que le pont d'Archimède ? Le pont d'Archimède, c'est encore une invention des Italiens pour traverser le détroit de Messine. Alors, il y avait, ça fait quand même plus de 3 km. Et les plus grands ponts suspendus, bon, au Japon, en Turquie, ça fait sur le Bosphore, ça fait 2 km, pas plus. Hein. 3 km, c'est quand même un peu... bon. Donc, les Italiens ont eu l'idée de faire un tunnel, enfin, de projeter, ils ont imaginé, un tunnel constitué de 2 tubes flottants, et flottants, donc ils sont infiniment plus légers, évidemment, que l'eau, et ils les ancrent sur le fond de la mer avec des câbles, chose qui, en ingénierie pétrolière, c'est quelque chose de très facile à faire, c'est une solution très économique, mais le projet a été un peu abandonné, bon, parce que, quand même, il y a un gros investissement, et puis il y a un risque qui est très difficile à... Parce qu'il suffit d'aller mettre une petite mine, hein, quand on envoie un plongeur là, pour tout perdre. Hein. Donc, ben le projet de tunnel d'Archimède, il est encore dans les cartons. Voilà. Alors, dernier chapitre, les tunnels de métro. Alors, je vous ai dit que maintenant, les Italiens se rattrapaient, bien. Hein, et voilà toutes les villes qui ont des métros maintenant. Alors j'ai mis le nombre de lignes de métro qui sont opérationnelles. Ils s'y sont mis dans les années 60-70 surtout. Alors à Turin, il n'y a qu'une ligne, Milan 5, Brescia, Gênes, Rome, Naples et Palerme. Alors une petite, petite parenthèse théorique, comment construit-on un métro maintenant ? C'est là, on fait la même chose dans tous les pays d'Europe. Eh bien, on construit d'abord des stations. Alors les stations, c'est comme des grands parkings, des parkings souterrains, disons, de 200 mètres de long et 30 mètres de large, que l'on fait entre des parois moulées, hein, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire à ciel ouvert. Et puis ensuite, dans une station, on met un tunnelier, et le tunnelier continue vers la station suivante. Puis on le tire à l'intérieur de la station suivante qui est déjà faite, et puis hop, il repart pour un cours, pour jusqu'à la station suivante, etc. Hein, les interstations, ça fait à peu près 800 mètres à 1 km en moyenne. Hein. Voilà, c'est la deuxième phase, on creuse le tunnelier avec un tunnelier. Mais on ne peut pas tout faire au tunnelier. Alors voilà encore un exemple pour le métro de Paris. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire au tunnelier. Par exemple, lorsqu'il y a une correspondance entre une vieille ligne de métro qui a été construite en tranchée là, dans une rue, et puis une station creusée en souterrain, il y a toujours des couloirs bizarres avec des formes biscornues qu'on ne peut faire qu'en méthode traditionnelle, sous les fondations des bâtiments, en ayant une peur bleue que ça fasse des tassements, parce que ça fait des contentieux, des réparations, etc. Donc, la méthode traditionnelle est quand même extrêmement importante à savoir utiliser et à perfectionner. Alors, le métro de Turin. Métro de Turin, il y a un certain retard à l'allumage, parce que Turin, c'est la ville de la Fiat, la voiture, etc. Ils ont été très réticents pour faire un métro, ils ont commencé tardivement, mais ils ont sorti une très belle ligne, en bleu, hein, ouverte en 2006 pour les Jeux Olympiques de Turin. Alors c'est un métro automatique sur pneus, de type Val, comme à Lille ou à Toulouse, ou à, hein. Et puis la ligne rouge, hein, est en cours de début de creusement. À Milan, ils ont travaillé plus vite, parce que c'est quand même une ville trois fois plus grande que Turin. Première ligne en 64, et il y a quatre lignes classiques que l'on voit ici, M1, M2, M3, M4, hein, jaune, rouge, vert et violet. Et en fin de construction, une ligne automatique M4. Mais surtout, il y a à Milan ce qu'on appelle un passante ferroviario, qu'on ne voit pas là-dessus, mais qu'on va voir sur l'image suivante. Alors là, ça paraît être un sac de nœuds, mais en réalité, ce que l'on voit, c'est qu'on a une espèce de tronçon central qui traverse toute la ville, là sur 5 km, dans lequel il y a 6 ou 8 lignes de banlieue, de la banlieue nord et de la banlieue ouest, qui traversent tout, et puis qui ensuite vont desservir la banlieue est et la banlieue sud. Et c'est en très bonne correspondance avec toutes les lignes de métro. Et dans ce passante ferroviario, il y a un train toutes les 2 minutes, hein, donc ça débite. Et ça marche très bien. Alors, encore une invention des Italiens pour la future ligne M4. Hein. M4, c'est la cinquième, elle s'appelle M4. Alors voilà les coupes transversales des stations qui diffèrent en banlieue et à l'intérieur. En banlieue, vous avez les boîtes parallélipipédiques dont je vous ai parlé, hein, comme des parkings souterrains, dans lesquels il y a un tunnel qui débouche pour un sens de circulation et le tunnel pour l'autre sens de circulation. Alors les Italiens, on se sont dit, dans le centre-ville, il n'y a pas moyen de trouver l'espace pour mettre des stations comme ça. C'est pas possible, il faut exproprier, il faut arrêter la circulation, c'est infernal. Par conséquent, ils ont eu l'idée géniale de creuser les tunnels sur toute la longueur avec un diamètre agrandi de 9 mètres pour pouvoir y mettre la largeur d'un quai. Ce qui fait qu'ils creusent d'un seul coup sur 10 km toute la longueur de la ligne de métro avec le même tunnelier. Hein, et de temps en temps, ben, ils installent une station, ils installent un quai. Et on accède à ces stations par des petits puits qui font un puits, ça fait 10, 12 mètres de diamètre. C'est beaucoup plus facile à loger dans un centre-ville que des grandes stations complètes comme des parkings souterrains. Alors ça, c'est une invention que je trouve géniale. C'est les premiers à l'avoir mis en Europe. Les Espagnols aussi à Barcelone ont fait un truc comme ça. Alors, le métro de Rome. Métro de Rome, ouvert en 1955, il y a deux lignes classiques, MA et MB, vous voyez la jaune et la bleue, avec quelquefois des tunnels superposés. Ça, c'est encore une originalité italienne. Dans les rues étroites, on fait des tunnels superposés pour pouvoir faire des stations étroites également. Alors, il n'y a que 61 km pour une ville de 4,5 millions d'habitants. C'est très insuffisant. Et en plus, ces deux lignes ne desservent pas le centre-ville. Parce que dans le centre-ville, c'est là qu'il y a toutes les fondations des bâtiments anciens, etc. On n'arrive pas. Il y a l'équivalent de, je ne sais pas moi, 10 ou 15 mètres de remblais superposés depuis des siècles. Hein, dès qu'on creuserait et qu'on arrive sur des vestiges anciens, les archéologues vous arrêtent et le chantier s'arrête pendant un an. Alors c'est infernal, il n'y a pas moyen. Alors, ils ont projeté une ligne, dite la ligne C, que vous voyez en pointillé vert, bon, qui, depuis la banlieue, elle va jusqu'à Saint-Jean-de-Latran, par là, et puis alors après, Bon, ils ont cerclé les colonnes des temples, ils ont fait des injections, ils ont fait des tas de trucs, mais ça va mettre 20 ans avant de traverser le centre-ville et d'aller jusqu'au Vatican. C'est très difficile et très compliqué. Palerme, je passe, bon, il y a trois petites lignes, ils ont récupéré des lignes de banlieue pour faire trois petites lignes de métro, ça marche bien. Et je vais terminer avec Naples. Alors Naples, c'est très original. Le métro, il y avait une première ligne de métro ouverte en 93, et il y a trois lignes. Alors il y en a une ligne qui fait une hélice pour aller monter à la colline, au château Santelmo, au-dessus. Alors bon, c'est la seule ligne de métro du monde qui fait une hélice comme ça. Il y a quatre funiculaires pour monter justement sur les collines. Il y a deux lignes de banlieue souterraine. Mais c'est un réseau qui est très mal foutu, très mal connecté. Et en plus, la ville a quand même un aspect assez délabré, assez misérable, etc. Et les ingénieurs ou la municipalité de Naples se sont dit, on va essayer de se rattraper d'une manière, de se racheter du mauvais état de notre ville en faisant un effort décoratif extraordinaire. Et ils ont appelé ça le métro dell'arte. Alors voilà un exemple à Naples. À Naples, il y a un rocher d'une qualité exceptionnelle. C'est des tuves volcaniques, ça tient verticalement, sans aucun soutènement, sans aucun problème. C'est du gâteau, c'est comme de la meringue au café, mais solide. Et ça se creuse parfaitement, et ça tient tout seul. Ils ont des cavernes immenses qu'ils ont fait dedans. Alors en plus, autre disgrâce à Naples, en particulier le long du port, il y a des tas de vestiges anciens. Pour creuser la station municipio, ils ont trouvé trois trirèmes grecs, très bien conservés dans la vase. Alors, bon, ils ont fait une grande caverne, ils les ont nettoyés, ils exposent les trirèmes, et puis à côté, il y a le métro qui passe. Alors, le métro dell'Arte. Voilà un quartier rénové à l'entrée d'une station. Et vous allez voir quelle station. C'est le plus beau métro du monde. Avec une débauche de couleurs, de motifs, etc., absolument inouïe. Voilà les escalators. Voilà les escalators horizontaux. Voilà un autre escalator. Voilà des croisements. Voilà des quais. Des fresques. Les salles de billets. Ma chère épouse. Les escaliers, même les contre-marches, sont peintes avec des portraits d'œuvres d'art italiennes. Un musée souterrain. Voilà. Alors ça vous donnera, j'espère, l'envie d'aller à Naples et de prendre le métro. Je vous remercie de votre attention.
Sous terre, que ce soit en chemin de fer, en métro, en voiture, vous avez probablement des questions à poser à Jean pour plus de précision.
J'ai eu l'occasion de visiter au bout de descente de tri, de petit tronçon côté français.
Sur le projet Lyon-Turin.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et il parlait d'une gare, une commune qui était isolée, avait exigé d'avoir sa gare. Et il y aurait une gare très profonde. Est-ce que ça a tenu ?
Oui. C'est une gare entre guillemets. Il faut mieux l'appeler une station de secours, c'est-à-dire c'est un endroit dans lequel un train supposé en feu peut s'arrêter et faire évacuer les gens rapidement dans un autre tube et un autre tunnel, pour ne pas mettre le feu à l'ensemble, parce que les tunnels ça brûle sans avoir l'air. Par exemple, le tunnel sous la Manche, il a brûlé trois fois, mais localement. Mais quand ça brûle, eh bien ça détruit le béton, claque peu à peu, par écailles successives, et on voit le terrain naturel. Alors on espère effectivement que ça brûle à des endroits où ça ne va pas, on ne va pas inonder tout le tunnel. Mais il faut faire très attention. Donc c'était les impératifs de sécurité qui ont cette gare normalement ne sert pas.
D'accord. Alors, on m'a rapporté, j'avais lu déjà dans des journaux et on m'a rapporté l'anecdote que le tunnel pour cette ligne Lyon-Turin était long, était très long. Mais les politiques français s'étaient dit qu'il faudrait quand même en faire le plus long du monde et ils avaient demandé aux ingénieurs de faire 2 km de plus pour qu'il soit le plus long du monde. Et ensuite, de toute façon, ça a été...
C'est un peu irresponsable. Peut-être que des ingénieurs ayant envie de se mettre en valeur...
Oh non, les politiques
ont lancé cette idée. Mais les politiques, parce qu'après, c'est eux qui payent et qui doivent taxer les gens. Alors, les politiques ne sont jamais partisans de ce genre de choses.
Ah bon ? C'était l'inverse que j'avais entendu.
Non. Les politiques sont très près de leur sou, hein, parce que c'est eux qui lèvent les impôts et qui les font voter.
Oui. Et la ligne devait déboucher en amont de Souza.
Oui,
et les écologistes ont dit non, on ne veut pas de grande vitesse comme ça dans la vallée. Faites un tunnel qui aille jusqu'à l'aval de la ville.
Oui, de ce point de vue-là, le tunnel principal qui fait 52 km à peu près,
oui, c'est ça.
Dans la vallée de Suse, il y a eu une opposition écologique
très forte.
Très forte. Hein. Et comme la vallée de Suse est très encombrée, parce qu'il y a déjà, il y a la rivière, il y a l'autoroute, il y a la voie ferrée ancienne, il y a la nationale, et puis il y a beaucoup plus d'habitants que du côté français. Par conséquent, il n'y avait pas beaucoup de place, ce qui fait que on a étudié l'idée de refaire un petit tunnel dans le versant pour que les gens aient la paix, pour contourner les agglomérations et que les gens aient la paix. Et c'est ça qui va se faire.
D'accord.
Mais c'est pas pour la gloriole, hein, c'est pour que le projet soit plus acceptable et puis limiter les nuisances aux gens qui habitent et qui ont le droit d'avoir la paix, parce que c'est des tunnels dans lesquels les nouvelles voies ferrées comme ça, ça va être 300 trains de marchandises par jour. Hein. Donc c'est quand même ça fait quand même une certaine nuisance. Hein. Et d'ailleurs les Suisses font pareil, dans les vallées affluentes au tunnel du Saint-Gothard, eh bien, les Suisses ont été contraints par les cantons locaux concernés de faire des tunnels de versant, comme ça, pour contourner les agglomérations et ne pas subir les nuisances. Et ça coûte bonbon, hein, mais on le fait quand même.
Est-ce que dans les travaux du Grand Paris, on tire parti de toutes ces trouvailles italiennes ?
Ah ben les entreprises italiennes, en particulier la Webuild, ils ont gagné des lots de travaux importants et ils mettent en œuvre des techniques très astucieuses. Hein. Par exemple, ils font les voussoirs de béton armés, qui sont armés non pas par des armatures, mais par des fibres métalliques qui sont mélangées au béton. Alors c'est beaucoup plus rapide, parce qu'il n'y a presque pas de longueur. Bon, ils travaillent très bien. Et ils ont gagné des tas de lots. Alors il y a une raison, c'est que les ingénieurs et les directeurs de travaux en Italie parlent français. Parlent français, donc ils peuvent négocier, lire les cahiers des charges, négocier les contrats, traiter avec les autorités, etc. Alors que les ingénieurs français ne parlent pas italien. Ce qui fait qu'il n'y a pas une seule entreprise française en Italie. Impossible, impossible. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a une désymétrie qui reflète un état culturel particulier.
Vous avez eu l'occasion de travailler sur ces projets ?
Oui, une question. Quelles sont les méthodes utilisées pour ressortir les tunneliers ?
Je ne comprends pas bien votre question. Vous dites ?
En fait, quelles sont les méthodes utilisées pour remonter en surface les tunneliers ?
Eh bien, les tunneliers, pour un travail de métro, eh bien, le tunnelier finit son boulot en général dans une station terminale. Bon, alors ça pèse, c'est assez lourdingue, mais avec des portiques et des grosses grues, Eh bien, en général, on le vide de tout ce qui pèse trop lourd, on enlève des remorques, parce qu'un tunnelier est toujours constitué d'une tête foreuse, et puis 5 ou 6 remorques spécialisées pour les différentes tâches à faire. Alors, on enlève les remorques, et puis on remonte des charges, on peut remonter des charges de 200 à 300 tonnes, hein, avec des grues adaptées. C'est comme ça que ça se passe. Oui ? Mais en profondeur, alors quelquefois il arrive, lorsque effectivement un tunnelier finit sa course au pied d'une descenderie, à grande profondeur, eh bien on le découpe en petits morceaux, et on récupère ce qui peut être récupéré, quelques vérins, etc. Mais bon, on le découpe en petits morceaux, c'est la seule solution.
Quand le tunnel est terminé, pour l'accès des piétons, pour remonter en surface, je trouve, mettons à Paris, dans le métro, on a beaucoup d'escaliers. Est-ce que c'est la même chose en Italie, dans le métro, par exemple, à Naples? Est-ce qu'il y a des ascenseurs? Est-ce que c'est rare, comme en France, les ascenseurs quand on arrive à Austerlitz ou quand on arrive
Je crois que c'est, vous savez, tous les réseaux de métro du monde, ils sont construits petit à petit. Alors, on fait une ligne, bien content de la faire. Et puis, bon, on l'utilise. Et puis, quelques années après, on décide d'en faire une deuxième. Mais les correspondances sont, en général, assez mal foutues. Et par conséquent, si vous voyez, par exemple, le croisement des deux lignes du métro de Rome, c'est la cata. Il y a des trucs dans tous les sens, c'est pas mieux qu'en France, et c'est très difficile à faire. Alors évidemment, lorsqu'on fait une ligne entièrement nouvelle, on veille à raccourcir les correspondances, à prévoir des escalators ou des ascenseurs partout. Par exemple, sur le métro du Grand Paris, il y a des stations qui sont tellement profondes qu'il faudrait... Il faudrait peut-être 10 escalators suffisants. Alors ils ont décidé de mettre des batteries d'ascenseurs parallèles entre eux, comme dans les gratte-ciels. Et puis on prend le premier ascenseur qui est là. Quoi. Des ascenseurs rapides pour monter.
Parce que ça manque d'ascenseurs ou d'escalators qui fonctionnent quand on arrive à un aéroport, dans une gare. Enfin, moi je fais l'expérience assez souvent d'avoir ce problème
Dans les gares en Italie, ils ont eu des ascenseurs pour accéder au quai et sortir. Bien avant, les Aubrais, je crois qu'il y a un ascenseur, mais ça fait très peu de temps. Alors qu'en Italie, ils avaient déjà des ascenseurs.
Sur les lignes modernes, c'est le cas. À Rome, qui est une vieille ligne, c'est pas le cas. c'est très mauvais. Bon, les lignes faites actuellement, on veille particulièrement à ça, surtout qu'il y a des lois qui obligent à transporter correctement toute personne handicapée qui doit pouvoir prendre le métro.
Donc, c'est pas possible, je pense, en métro.
Ah oui. Mais à Paris, c'est on est très très loin de la proportion de stations accessibles, comme on dit, pour les personnes handicapées, est très faible. C'est le tiers ou le quart. Hein.
Moi, je voudrais demander, quand on passe dans des différents types de roches, il y a des problèmes au niveau du tunnelier, il faut changer certaines choses.
Je dirais que c'est plutôt le tunnelier, une fois qu'il est dans le terrain, c'est, je dirais, son sort est joué. Hein. On peut quelquefois, lorsqu'un tunnelier arrive, par exemple, lorsqu'on construit un métro, un tunnelier, il fait un tronçon entre deux stations, et lorsque on le traîne dans la station déjà excavée hein, pour refaire un autre tronçon, là on peut changer quelques outils. Ça se fait de changer quelques outils, de remplacer des molettes tournantes par des griffes qui rongent si le terrain a changé. Hein, ça se fait, mais globalement, le tunnelier est un peu défini des variétures. Hein, il faut que le terrain, il faut avoir bien reconnu les conditions de terrain, de telle sorte que le tunnelier que l'on a acheté et monté soit efficace dans ce terrain.
Oui. Je vais vous poser en effet la même question. Est-ce qu'en effet, il y a des pièces abrasives avec des dentitions différentes, comme pour les forages, où on change...
Tout à fait, c'est exactement la même. On utilise... Alors, les tunneliers, si vous voulez, sur la face du tunnelier, il y a, en général, ce sont des molettes qui tournent, qui sont en acier au tungstène, etc., et que l'on est obligé de changer fréquemment, très fréquemment. Alors, le tunnelier, pour changer, eh bien, on fait reculer le tunnelier de 1 mètre ou 2, et on change les molettes au front de taille, très souvent, et ça coûte très cher, hein. Mais c'est des pièces d'usure, hein, c'est normal. Oui.
Excusez-moi de poser tant de questions. Est-ce qu'on applique la méthode de congélation pour les terrains instables?
La méthode de congélation est très utile, mais ce sont la plupart du temps dans des tunnels creusés de manière traditionnelle, ou à la jonction entre un tunnel et une station, quand il y a des fuites d'eau. Hein. Voilà. La congélation est très utilisée, c'est une méthode très efficace. Ça consiste à... On fait des forages, on fait circuler dans le forage une saumure congelée, hein, à une température de moins 8. Alors, la saumure ne gèle pas à moins 8, je crois, enfin, ça dépend de la concentration de sel, etc. Mais le terrain gèle, et la nappe gèle, alors ça devient un bloc de glace dans lequel on peut travailler très facilement, très correctement.
Très appliqué pour les métros.
C'est surtout pour les métros. Ça se pratique aussi quelquefois en montagne. Hein, lorsqu'on doit traverser une faille avec de l'eau, une faille aquifère, on congèle très souvent. Hein. Mais enfin, exceptionnellement, je dirais, parce que ça coûte très cher. C'est compliqué, ça coûte très cher.
Une anecdote là-dessus, j'ai eu l'occasion de visiter Boston aux États-Unis. Où il racontait que les ingénieurs américains, c'était les meilleurs du monde, c'était dans les années 2005, ils avaient inventé une méthode de creuser dans les terrains trop mous, trop instables, en congelant le sol. Moi, quand j'étais jeune, 50 ans avant, ben, c'était déjà dans tous les manuels d'ingénieurs en France.
Il y a d'autres questions ? J'ai été frappé là, au début, à propos des trains à grande vitesse, par l'importance donnée au transport de marchandises. En bon français, n'est-ce pas, nous ignorons totalement ça. Et en fait, on prévoit que ces trains de marchandises rouleront à la même vitesse que les trains de voyageurs ou...
Non, ils n'auront pas la même vitesse.
Ils sont sur les mêmes voies.
Ils partagent les mêmes voies et on les fait circuler alternativement, ou la nuit, quand il n'y a pas de train de voyageurs. Mais les Italiens portent une très grande attention au transport de marchandises, parce qu'ils voient un peu plus loin que le bout du nez de la SNCF. Hein, qui... Donc ils sont très, très vigilants pour rendre leur nouvelle ligne à grande vitesse compatible avec le transport de marchandises.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des éclaircissements?
Bon, la photo derrière vous, c'est quel niveau d'achèvement, cette photo?
Pardon?
La photo derrière vous, là.
Oui.
Elle représente quoi exactement?
Eh bien, elle représente un tunnel fini.
Oui, mais les...
Juste avant que l'on pose la voie ou que l'on fasse une chaussée en général en béton, que l'on pose la voie ferrée, c'est un tunnel indéterminé, mais un tunnel creusé au tunnelier avec des voussoirs, etc. Voilà.
Parce que fini.
Oui, mais c'est fini parce qu'il n'y a plus que des fils électriques pour faire marcher les lampes, c'est tout. Hein, et puis on attend, parce qu'en général la pose de voie ça se fait de manière assez industrielle, on attend que le tunnel soit entièrement creusé pour poser la voie ou pour faire le bétonnage de la chaussée, etc. Voilà.
Bon, je remercie beaucoup le conférencier de ce passionnant exposé qui nous a fait découvrir un dynamisme italien, une variété de travaux, on ne le savait pas.